La sœur est Bilga, elle va s'avancer. C'est une personne que j'observe de loin et qui m'inspire en tout cas. Et je bénis Dieu pour ses jours. Elle va prier et...
Merci beaucoup. Nous allons nous mettre debout et nous allons acclamer Ebenezer qui nous a fait courir jusqu'ici. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 7, du 1er au 12e verset. 1 Samuel 7, du 1er au 12e verset. Nous allons lire dans le nom du Seigneur. Les gens de Kiriath Yéarim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et les transportèrent dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Ils établirent son fils Éliazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Yéarim. 20 ans s'écoulèrent. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors, Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus les cultes qu'à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ces jours-là et confessèrent. Nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut les juges du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur de Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement et en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent battus par les Israélites. Ils sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en le poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. » Nous allons prier. Nous te bénissons, Père éternel, Dieu de gloire, tout-puissant, parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces précieux moments que tu nous accordes dans ta présence, afin que nous puissions t'écouter. Ma prière, Seigneur, est que tu divises ta parole en différentes portions, selon le nombre de personnes qui se retrouvent ici. Afin que, Seigneur, chacun tire sa part. Afin que cette parole rencontre le vrai besoin de chacun de nous en ces lieux. Afin que ta parole porte de fruits dans la vie de chacun de nous. Que nos cœurs soient cette terre fertile qui va recevoir ta parole, qui va porter des fruits pour la gloire de ton nom et pour ton honneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir en disant à la personne qui est à notre gauche et à notre droite, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alors ce matin, nous allons essayer de voir dans quel contexte Samuel avait dit Ebenezer. Et je veux vous parler du contexte dans lequel les Philistins sont venus battre Israël, combattre le peuple de Dieu qui est Israël. Et nous allons voir ce que l'Éternel a fait en faveur des Israélites, son peuple. Alors, l'auteur du livre de Samuel est inconnu, selon les différentes informations qu'il y a. L'auteur est inconnu, mais le livre de Samuel porte le nom d'un des personnages principaux. Et un de ces personnages, c'est Samuel lui-même. Et nous tous, peut-être, nous avons déjà entendu parler de l'histoire de Samuel. C'est une histoire vraiment impressionnante qui m'est bénie personnellement. La manière dont Dieu a organisé tout pour que Samuel soit à son service. Sa mère avait beaucoup de difficultés d'avoir des enfants et il avait promis à l'Éternel que l'enfant que tu vas me donner, je vais te les donner en offrande pour qu'il te serve durant toute sa vie. Et donc, Samuel était un enfant particulier. Mais au-delà de Samuel étant un enfant particulier, il a servi l'Éternel dans une période aussi particulière. Donc Samuel était le dernier des juges que l'Éternel suscitait en Israël, parce que les juges, c'était des chefs que l'Éternel suscitait pendant des périodes de crise en Israël pour sauver son peuple. Et Samuel est le dernier de ces juges-là. Nous savons, nous connaissons, il y avait aussi Samson qui fait partie de ces juges et plusieurs autres juges. Alors, en principal, le livre de Samuel s'apporte sur la désignation de roi. Et il y avait le premier roi d'Israël qui est Saül et le deuxième roi qui était David. Et quand nous lions l'histoire de David à aujourd'hui, à cette période où nous nous préparons à fêter Noël, nous allons voir que Jésus descendait directement du roi David, comme Dieu l'avait promis dans sa parole. Alors, durant ces moments de crise, pendant que Samuel était juge, ce sont les Philistins qui tracassaient le peuple des dieux. À chaque fois que le peuple d'Israël, c'est presque comme ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, nous pouvons voir en Ituri, chaque fois qu'il y a les ADF, c'est pendant la période des récoltes de cacao. Et à l'époque, les Israélites, pendant qu'ils faisaient l'agriculture, donc ensemençaient leurs champs, lors de la récolte, c'est à ce moment-là que les Philistins venaient pour vraiment amener le peuple d'Israël encore plus bas. Alors, pourquoi est-ce que je dis que cette période était une période particulière? En premier, c'était une période particulière parce que durant cette période, Dieu parlait rarement à son peuple, rarement. Et si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir que quand même Samuel, Dieu l'appelait, il ne savait pas identifier que c'était Dieu qui l'appelait, parce que la parole de Dieu était rare à cette époque. La deuxième des choses est que les révélations que Dieu montrait aux hommes n'étaient pas fréquentes. Donc, Dieu ne se révélait plus fréquemment à son peuple, comme c'était le cas avant. Durant cette même période, Samuel voit son leader, son modèle, être rejeté par l'Éternel. Donc c'était une période très compliquée avec beaucoup de challenges. Au-delà de voir son mentor, son maître, parce qu'il a servi sous le leadership d'Élie, il voit Élie rejeté par Dieu à cause de la conduite de ses fils. Au-delà de voir Élie rejeté, imaginez la peur que Samuel avait. Il s'est dit, mais comment est-ce que Dieu peut rejeter son serviteur à cause de la conduite de ses fils. Donc c'était vraiment une période très particulière. Au-delà de voir Élie rejeté, Samuel voit deux fils d'Élie tués au front. Parce que à chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, Dieu suscitait une nation pour venir le mettre mal à l'aise, pour venir les accabler et les faire souffrir. Et il voit les deux fils d'Élie mourir. À part les deux fils d'Élie qui meurent, il y a la femme, parce qu'il y avait Ophni et Phinéas, il y a la femme de Phinéas qui était enceinte. À cause de tout ce qu'elle voyait, elle a eu des contractions et elle a accouché. En accouchant, tellement la situation était très compliquée, elle a donné à son fils un nom, Ichabod, c'est-à-dire il n'y avait plus de gloire en Israël. Et quand on dit qu'il n'y avait plus de gloire, donc c'est chacun qui cherchait sa route. Parce que c'est la guerre qui était déjà déclenchée. Et à chaque fois que la guerre déclenchée à l'époque, si une fois on vous a battu, vous devenez des esclaves. Et quand on vous dit esclave, donc vous n'avez aucun droit. Et par-delà, par-dessus tout, il y avait l'arche de l'Éternel qui avait été prise. Et personnellement, je crois que c'était la chose la plus compliquée, prendre l'arche de l'Alliance. Pourquoi j'ai dit que c'était la chose la plus compliquée? Je vais nous donner un peu ce que l'arche représentait pour le peuple d'Israël. Alors, l'arche de l'Alliance représentait le trône visible du Dieu invisible. Donc l'arche de l'Alliance était la présence même de l'Éternel. Ça symbolisait la présence mystérieuse des dieux au milieu de son peuple. À chaque fois que le peuple d'Israël devait aller à la bataille, c'est l'arche qui précédait. Parce qu'ils n'avaient que l'Éternel pour combattre en leur faveur. Avant que Dieu ne établisse une alliance avec le peuple d'Israël, nous allons comprendre avec l'histoire des Israélites, quand ils revenaient d'Égypte, il y avait une colonne de feu qui les accompagnait la nuit. C'était la présence des dieux. Et il y avait de la nuée qui les accompagnait pendant la journée pour montrer que Dieu était avec eux. Et tant que cette colonne de feu ou la nuée ne s'était pas encore avancé, le peuple d'Israël ne pouvait pas avancer. Et après, quand Dieu a établi une alliance avec eux, il leur a demandé de construire l'arche, de fabriquer l'arche de l'alliance. Et c'est l'arche qui marchait devant le peuple d'Israël. Alors, l'arche de l'alliance contenait trois grands éléments que nous allons voir. Et chaque élément symbolisait la puissance et la présence même de Dieu parmi son peuple. Le premier élément que contenait l'arche, c'était la manne. Et la manne, quand nous voyons la manne, c'est cette nourriture miraculeuse que Dieu avait fournie aux Israélites pendant 40 ans, quand ils étaient dans le désert. Et cette manne, ça symbolise même la provision divine. Je prie que l'Éternel soit ta provision durant cette fin d'année et cette année que nous commençons au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que contenait l'arche, c'était les bâtons d'Aaron. À l'époque, il y avait une tribu que Dieu s'était choisie pour le service, pour les servir. C'était la tribu des Lévites. Les Lévites étaient au service de l'Éternel. C'est seulement de cette tribu que devraient sortir de prêtres. Alors, il y avait eu beaucoup de disputes quand le peuple d'Israël était dans le désert et tout le monde disait que non. Pourquoi est-ce que Aaron, c'est toi qui vas faire comme si c'est Dieu qui t'a choisi pendant que nous tous, nous sommes descendants de la tribu des Lévi. C'est à ce moment qu'on avait demandé à différentes personnes qui étaient en train de se disputer, chacun devrait amener un bâton. Et les bâtons qui devraient fleurir, c'est les bâtons de la personne que Dieu lui-même avait choisi pour être prêtre devant lui. Et c'est comme ça que le bâton d'Aaron avait fleuri. Et c'était le signe, le symbole que c'est Dieu qui l'avait choisi comme prêtre. Et donc, dans l'Arche de l'Alliance, il y avait aussi les bâtons d'Aaron qui symbolisaient l'autorité divine et la légitimité qui était accordée par Dieu. Alors, ma prière ce matin est que partout où tu vas passer, que ce soit à ton lieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout où tu seras, que l'Éternel lui-même puisse te conférer cette légitimité que tu es son serviteur ou sa servante au nom de Jésus-Christ. Le troisième élément qui s'est trouvé dans l'Arche de l'Alliance, c'était les tables de la loi. Et sur ces tables de la loi étaient gravés les 10 commandements que nous connaissons. Et les 10 commandements, ça représentait l'alliance de Dieu avec Israël. Il y avait des lois et des instructions que Dieu avait données au peuple d'Israël pour les guider, pour guider leur vie. Alors, nous allons voir que l'Arche de l'Alliance ne symbolisait pas seulement la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais elle contenait aussi les éléments essentiels qui reflétaient les aspects de la foi. Peut-être je vais me répéter, la providence ou la provision divine qui était la manne, l'autorité divine qui était le bâton d'Aaron, ainsi que l'alliance que nous voyons, les tables de la loi qui contenaient les 10 commandements. Alors, quelles sont les 3 vérités que nous allons apprendre ensemble ce matin au travers de tous ces éléments de contexte que je viens de vous donner à peine? Alors, la première vérité autour de l'Arche de l'Alliance est que l'Arche de l'Alliance contenait les souvenirs d'anciennes actions de Dieu pour sauver son peuple de sa détresse et le faire cheminer vers la vie. Que peut représenter l'Arche de l'Alliance pour nous aujourd'hui? L'Arche de l'Alliance pour nous aujourd'hui, ça représente la Bible elle-même. Parce que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Et Dieu se sert de sa parole, donc la parole contenue dans la Bible, pour nous parler à l'aide du Saint-Esprit. L'Arche de l'Alliance contenait les 10 commandements. La Bible, ça contient les instructions que Dieu nous donne en tant que chrétiens dans la marche vers notre vie éternelle, notre demeure éternelle. Et c'est pour cela que le psalmiste, il l'a dit dans Psaume 119, verset 10, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, nous allons voir la deuxième vérité ce matin. Quand nous lisions la Bible, nous allons voir, c'était au verset 2 du 7e chapitre de 1 Samuel, où on nous dit « 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Yearim. » Peut-être je vais revenir un peu en arrière. Donc, quand l'arche était partie chez les Philistins, l'arche avait vraiment causé beaucoup de désastres dans les camps de Philistins. Il y avait des tumeurs qui apparaissaient. Il y avait des rats qui commençaient à apparaître chez les Philistins, que ce soit dans des villes ou dans le territoire. Et ça causait la mort de plusieurs Philistins, au point où ils ont eu peur. Et ils ont ramené l'arche. Et quand nous avons lu les versets ici, ça nous montre que l'Arche de l'Alliance avait été déposée à Kiriath Yearim et on avait établi Éléazar, le fils d'Éléazar, comme gardien du coffre de l'Éternel. Et 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Yearim. Mais pendant ces 20 ans, les Philistins continuaient toujours à tracasser le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, pendant 20 ans, l'arche était là. Et nous avons vu ce que représentait l'arche de l'Alliance pour les Israélites. La présence de l'Éternel parmi son peuple. Et pendant ces 20 ans, ils ont conservé l'arche de l'Alliance. Et personne ne pouvait se rappeler que l'arche de l'Alliance représentait la présence même de Dieu. Et donc, ils ne pouvaient pas profiter de la puissance de l'Éternel au milieu d'eux parce qu'ils avaient rejeté l'arche et l'avaient abandonnée. Ils l'avaient seulement conservée. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous pouvons comparer l'arche à la Bible. Combien de gens parmi nous conservent la Bible dans leurs armoires à la maison? Il y a des gens qui ont déjà fait 10 ans. Ils ont acheté des Bibles qui sont restées neuves parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de consulter la Bible. Pourtant, quand je parle de la Bible, c'est la parole vivante de l'Éternel. Dieu se sert de la Bible pour nous parler au travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Et tant que nous n'avons pas utilisé, nous ne voulons pas profiter de cette parole que Dieu nous donne dans la Bible, elle ne peut pas devenir pour nous une espérance. Nous passons par des situations compliquées, mais c'est impossible pour nous d'avoir une espérance de délivrance tant que nous ne savons pas user de cette Bible, de sa parole que Dieu nous a donnée. Et c'est cette Bible qui nous ouvre même la voie vers la source, qui nous donne accès à la source qui est Dieu. Parce que c'est au travers la Bible que nous connaissons qui est Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait dans les temps anciens? Et qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie? Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. On nous montre dans Ésaïe 55, 10 à 11, que comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. C'est l'Éternel lui-même qui le déclare. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté non seulement ma volonté, mais aussi sans avoir accompli mes desseins. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu qui est à notre disposition? Quand les Israélites ont compris que non, l'arche de l'Alliance est là, ils ont dit à Samuel, nous voulons revenir à l'Éternel. Et c'est comme ça que Samuel a dit, vous voulez revenir vraiment à l'Éternel de tout votre cœur? Il leur a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et j'aime encore ce que Jean, chapitre 1, 1 à 4, qui nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Genèse encore poursuit en disant, à chaque fois que Dieu prononçait une parole, directement, elle s'accomplissait. Que la lumière soit et la lumière fit. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne sa parole, la Bible qui contient la parole vivante de l'Éternel, mais nous ne savons pas comment l'utiliser afin que l'Éternel soit Ebenezer dans nos vies. La condition qu'il fallait pour que l'Éternel puisse secourir le peuple d'Israël, il fallait qu'il revienne à l'Éternel. Et qu'il reconsidère la présence de Dieu qui était symbolisée par l'arche de l'Alliance au milieu d'eux. Alors, la troisième et la dernière vérité que nous allons apprendre aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous ici puisse les communiquer à celui qui est à sa gauche ou à sa droite. Tu vas dire à la personne qui est à ta gauche ou à ta droite que chacun a ses propres Philistins. Alors nous allons découvrir qui sont les Philistins. À l'époque du peuple d'Israël, les Philistins, c'était les personnes qui les tracassaient, qui abîmaient leurs récoltes, qui mangeaient les fruits de leurs efforts, qui les amenaient très bas. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander, mais qui sont mes Philistins? Qui sont nos Philistins? Les Philistins sont une figure de ceux qui nous agressent et nous attirent vers le bas. C'est la figure de ce qui ne nous permet pas de nous approcher de Dieu. C'est la figure de ce qui ne nous permet pas de découvrir la puissance de la parole de Dieu, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et dans Jean, on nous dit que la parole était avec Dieu, mais la parole aussi était Dieu lui-même. Alors chacun de nous va réfléchir à ce qui l'attire vers le bas, à ce qui ne lui permet pas de découvrir la richesse de la parole de Dieu qui est contenue dans sa Bible. Nous allons voir que pour le peuple d'Israël, pendant 20 ans, l'arche de l'Alliance était là, mais les Philistins continuaient toujours à les tracasser. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit, nous voulons revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Il y a Samuel qui leur a dit, ôtez les dieux étrangers. Adorez Dieu seul. Offrez-lui un culte. Et attachez-vous à ces dieux. Et quand ils ont compris cela, ils sont revenus à l'Éternel. Pendant qu'ils se rassemblaient là où il y avait l'arche de l'Éternel, les Philistins encore se sont levés. Ils se sont dit, aujourd'hui nous allons les exterminer. Ils sont venus. Mais la Bible est claire et vient de nous montrer que, au verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en le poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. C'est à ce moment-là que Samuel avait pris une pierre qu'il a érigée et qu'il a appelée du nom d'Ébénézer. 20 ans plus tôt, cet endroit était marqué par la défaite, parce que l'arche de l'Alliance était partie. Mais ce même endroit, quand ils sont revenus vers l'Éternel, ils ont reconsidéré la puissance même de l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu parmi eux. Ce même lieu est devenu un lieu de victoire. Depuis que nous avons commencé cette année, nous avons eu janvier, février, mars, avril, et aujourd'hui nous sommes en décembre. Et il y a plusieurs personnes parmi nous qui ne savent pas nommer cette année. Tellement c'est une année qui a été marquée par beaucoup de défaites. Et plusieurs ont oublié la puissance même de la parole, de la Bible qui contient la parole de Dieu. C'est grâce à la Bible que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est grâce à la Bible que nous pouvons connaître qui est Dieu, ce qu'il a fait dans les temps anciens et ce qu'il peut continuer à faire aujourd'hui. Mais ta Bible, tu l'as placée dans l'armoire, hein? Tu n'as pas le temps de lire et tu es là en train de te lamenter. Tu dis, Seigneur, depuis le début de l'année, j'avais planifié faire telle chose. Mais tout n'a pas réussi. Tout comme les Israélites, pendant 20 ans, l'arche de l'Alliance était là, mais tellement ils ne connaissaient plus la puissance de l'Éternel qui était au milieu d'eux, ils étaient seulement là à se lamenter. Encore les Philistins, ils ont fait ça. Encore les Philistins ont fait ça. Mais quand ils ont reconnu la puissance, la présence de l'arche de l'Alliance, au milieu d'eux, ils sont revenus à l'Éternel et nous voyons ce que Dieu a fait pour eux. Et la défaite que Dieu avait infligée aux Philistins, donc ces gens n'ont pas perdu seulement une bataille. Ils ont eu une grande défaite, une défaite très lourde qui avait duré dans les temps. On nous montre ici dans la Bible que Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Au-delà de ça, les villes que les Philistins avaient prises à Israël, Écron, Décron, Agat, revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Qui sont tes Philistins qui t'empêchent de reconnaître la puissance de la parole de Dieu? Qui sont ces Philistins qui t'empêchent de croire en la puissance de la parole de Dieu dans ta vie? Qui sont ces Philistins qui t'attirent très bas et qui ne te permettent pas de dire Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru? Peut-être tes Philistins, c'est cette culpabilité qui ne cesse de te ronger. Peut-être ces Philistins, ce sont les lamentations. C'est chaque jour que tu te lamentes. Mais Seigneur, tu as donné à celui-ci, mais pourquoi pas moi? Tant que tu te lamentes, tu ne sauras pas vraiment voir la puissance de Dieu au travers de sa parole. Qui sont ces Philistins? Peut-être c'est le manque d'amour. Qui sont les Philistins? Peut-être c'est le manque de pardon. Tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même ni à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Qui sont ces Philistins? Peut-être c'est la situation par laquelle tu es en train de passer, les difficultés par lesquelles tu es en train de passer et qui ne te permettent pas, comme les Israélites, 20 ans diront, l'arche était là, mais ne pouvait pas intervenir en leur faveur parce qu'ils étaient là seulement en train de se lamenter. Et se disaient, mais si Dieu est parmi nous et il ne nous sauve pas, donc ça ne sert à rien de le servir. Mais quand ils ont reconnu la puissance de l'Éternel, ils sont revenus à l'Éternel. Et la défaite qu'ils ont faite aux Philistins, ça a été plus lourde que les défaites même qui étaient faites auparavant. Alors ce matin, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui a intervenu en faveur d'Israël est encore là. Décembre n'est pas encore fini. Avant décembre, tu vas chanter Ebenezer, parce que jusqu'ici, l'Éternel t'aura secouru au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes à Noël. Et déjà, je vois qu'il y a l'arbre qui est déjà dressé. Et personnellement, quand je vois Noël, ça me rappelle d'Emmanuel. Et quand on parle d'Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Qui sont ces Philistins? Emmanuel est présent. Et il est capable, il est prêt à te donner la victoire contre tous tes Philistins en ce moment. Que Noël ne soit pas pour toi un moment où tu te dis nous allons fêter en famille. Parce que personnellement, chez nous, il y a ma petite sœur qui aime beaucoup Noël. Et donc, nous l'avons même surnommée Mère Noël. Parce qu'à Noël, elle nous donne nous tous des cadeaux. À Noël, nous la voyons se mobiliser comme pas possible. Arbre et Bilga, quand est-ce qu'on va illuminer le sapin? Quand est-ce que nous allons faire ça? Et pour elle, Noël, c'est quelque chose de très précieux. Depuis que nous sommes petits, chez nous, on ne fête pas bonne année. Nous fêtons seulement Noël. Papa nous dit toujours que pour lui, c'est Noël qui est la fête des chrétiens. Parce qu'avec Noël, Christ, Dieu lui-même est venu habiter parmi nous. Alors, qui sont ces Philistins qui t'empêche de reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie? Emmanuel est parmi nous. À l'époque des Israélites, c'était l'arche qui représentait la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Emmanuel, Dieu lui-même parmi nous. Et son Esprit Saint habite en nous. Alors, il ne faudrait pas avoir peur. Pendant le temps où les Israélites savaient que tout était fini, Emmanuel, Dieu lui-même parmi nous, le Créateur, il a commencé à créer du néant quelque chose de nouveau. Et la paix régna entre Israël et les Amoréens durant ce moment. Que la paix du Christ soit ton partage en ce moment où nous commémorons Noël. Alors je vais faire un appel. Comme je le disais, les Philistins sont là. Et ces Philistins sont ceux-là qui nous attirent vers le bas. Sont ceux-là qui sèment la terreur dans nos vies. Sont ces choses qui prennent toute notre joie et notre espérance. Les Philistins, ce sont toutes ces choses qui nous amènent à désespérer. Nous nous disons, Seigneur, nous avions planifié ça depuis le début de l'année. Mais au contraire, les choses s'empirent. Nous ne voyons rien. Alors, ceux qui veulent aujourd'hui, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. Et c'est chaque jour que nous prenons cet engagement de marcher avec Christ. C'est chaque jour que nous prenons l'engagement de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions contempler la puissance de Dieu dans nos vies. Alors, je vais demander à toute personne qui aimerait chanter Ebenezer dans sa vie avant la fin de cette année. J'aimerais appeler cette personne qui aimerait laisser à Dieu ses batailles, ses combats, ces Philistins qui continuent à l'amener très bas. Il va se mettre debout et nous allons prier ensemble. Toute personne qui s'est dit, je n'ai que l'Éternel pour me délivrer de ces Philistins qui continuent à m'accabler, qui continuent à m'attirer vers le bas, qui m'amènent à me lamenter chaque jour, qui m'amènent à vivre dans un moment de chagrin qui enlève toute ma joie, il va se mettre debout et nous allons prier ensemble. Moi, personnellement, ce matin et à cette heure précise, moi aussi, comme les Israélites avaient choisi Dieu, moi aussi, je viens encore choisir Dieu. Je sais que tous les combats, tout ce que j'avais prévu et que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant, j'ai la foi que le peu de jours qui restent, Ebenezer qui a combattu pour les Israélites est présent et son nom c'est Emmanuel parmi nous. Nous allons prier. Emmanuel, je te bénis car ton nom est précieux. Emmanuel, je te bénis parce que tu es présent au milieu de nous. Emmanuel, je te bénis parce que tu es dans ta parole et derrière ta parole pour l'accomplir. Et ce matin, cet après-midi, nous venons de te choisir. Nous venons de choisir la puissance de ta parole dans nos vies. Je sais que tu dis, Seigneur, dans Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, mon frère, ma sœur est en train de passer par des moments où il n'y a plus de lumière. Sa vie est informe et vide. Mais aujourd'hui, Seigneur, toi qui es Emmanuel, toi qui es dans ta parole et derrière ta parole pour l'accomplir, je prie que tu viennes encore être la lumière dans ces vides informes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que toi, tu crées là où il y a les vides. Tu es Adonai, le Dieu créateur. Seigneur, là où mon frère ou ma sœur ne s'attend plus, Seigneur, il se dit c'est fini pour moi. Je prie que ton pouvoir créateur vienne encore une fois de plus agir dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était informe et vide trouve la lumière et puisse prendre forme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, sois glorifié. Merci parce que tu es Ebenezer dans nos vies. Et nous continuons à te faire confiance parce que nous savons qu'avant fin décembre, nous allons chanter Ebenezer. Parce que Seigneur, jusqu'ici, tu es devenu notre secours. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.